Livre des Rois. Deuxième livre des Rois, au chapitre 6, nous commencerons à partir du verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent ». Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne, ô roi mon seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je ? Frapperai-je, mon père ? » ?»« Tu ne frapperas point, » répondit Élisée. « Est-ce que tu frappes ce que tu fais prisonnier avec ton épée et avec ton arc ? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent, puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître, et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen. Seigneur, je veux te rendre grâce, parce qu'effectivement, lorsque toi tu interviens, lorsque toi tu agis, dans une situation, quelle qu'elle soit, alors l'homme n'a plus à y revenir parce que tu fais les choses parfaites. Seigneur, toutes choses sont belles et merveilleuses, accomplies par toi en ton temps. Et je te prie, Seigneur, de nous permettre de croire toujours en ta fidélité et de nous reposer constamment sur les promesses que tu as faites. Ta parole est la vérité, et je te prie qu'elle puisse rester gravée dans nos cœurs en cette matinée. Nous avons besoin de toi, inspire-nous et guide-nous, et à toi seul soit toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous venons de chanter ensemble « Quel repos céleste !» Et le texte que nous venons de lire ensemble commence par une déclaration qui semble être à l'opposé. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Je voudrais simplement attirer votre attention sur cette expression « en guerre ». Vous savez, le chrétien est un soldat de Christ et il est amené à mener un combat permanent, un combat contre l'esprit du monde, un combat contre le diable, un combat contre la chair. Et nous savons que ça, c'est une réalité qui est soulignée par la parole de Dieu. Mais je voudrais quand même commencer par une parole positive. C'est vrai que nous sommes en guerre, mais nous sommes assurés de la victoire. Parce que la victoire, elle appartient à notre Dieu. La Bible déclare que le Seigneur est un héros qui sauve. La Bible dit aussi que c'est un vaillant guerrier. Et dans tous nos combats, dans toutes nos luttes, si nous faisons confiance au Seigneur, nous pourrons le voir triompher sur nous-mêmes, triompher sur l'esprit du monde, triompher sur l'ennemi de notre âme, qui est semblable à un lion rugissant, cherchant toujours qui il va dévorer. Mais je suis convaincu, et je sais que vous l'êtes aussi, que le dernier mot appartient toujours à notre Dieu. Nous relevons simplement ceci. Donc, il y a une guerre. Il y a beaucoup de choses qui veulent s'opposer, qui veulent en quelque sorte même détruire, anéantir l'œuvre de Dieu. C'est ce que le Seigneur lui-même a souligné dans une déclaration que nous avons souvent répétée, quand il dit « le voleur, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire ». Mais nous nous rendons compte de la fidélité de Dieu. Il n'y a rien qui échappe à notre Seigneur. Aucune de nos pensées n'est cachée aux yeux de l'Éternel. Aucune de nos actions n'est caché aux yeux de l'Éternel. Mais ce dont nous pouvons être assurés, c'est de son amour qui est permanent, qui est éternel. La Bible déclare que même lorsque nous sommes infidèles et que nous doutons dans le fond de notre cœur, lui reste toujours fidèle. Et comme je le viens de le dire, l'Éternel qui connaît tout de notre cœur fait ici une démonstration dans la situation qui est décrite dans ce passage parce qu'il a inspiré un de ses serviteurs, en l'occurrence le prophète Élisée lui-même. Et quand le roi de Syrie disait à ses soldats et à ses généraux, « Voilà, notre camp va se tenir en un tel endroit », et il espérait bien sûr, dans la stratégie qu'il déployait lui-même, que cela était caché aux yeux de ce roi d'Israël et de l'armée d'Israël. Voici que la Bible nous déclare que le prophète Élisée entendait toutes les paroles qui étaient prononcées dans la chambre à coucher de l'ennemi d'Israël. Alors, lui, eh bien, apporter une parole de secours, je parle du prophète Élisée, à l'homme de Dieu, parler ainsi à ses soldats d'Israël, comme au roi d'Israël, et il disait, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Je voudrais souligner seulement cette expression, garde-toi. Vous savez, nous avons, vous et moi, le privilège d'avoir à notre disposition la parole de Dieu, qui a été inspiré par le Saint-Esprit. J'ai voulu me lancer dans une opération particulière, découvrir dans toute l'Écriture le nombre de fois où l'Éternel dit « garde-toi » ou « gardez-vous ». Et je me suis aperçu que c'est très difficile de savoir avec précision le nombre de fois que Dieu nous avertit dans sa grande souveraineté et dans son amour. Frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de nous appliquer à méditer la parole de Dieu avec soin. L'Écriture est le moyen par lequel Dieu nous parle, nous avertit de tous les dangers et ouvre nos yeux pour que nous puissions avoir le discernement afin de voir quelle est la stratégie de l'ennemi. Et même un homme tel que l'apôtre Paul disait à un moment donné, nous n'ignorons pas ses desseins. Et Dieu ne veut pas que le peuple de Dieu ignore les desseins de l'ennemi. Il ne veut pas que le peuple de Dieu ignore quelles sont ses ruses, le déploiement de forces qu'il utilise pour anéantir l'Église de Jésus-Christ. Mais nous savons tous, parce que ça c'est une parole formidable, que même si les portes de l'enfer, eh bien, se déclenchent, se démènent pour anéantir l'Église de Jésus-Christ, rien ne pourra l'anéantir. Non seulement sur le plan universel, parce que l'Église de Jésus-Christ est fondée sur le rocher des siècles et sur l'enseignement des apôtres, et tant qu'une Église locale repose sur le fondement qui est Christ et l'enseignement des apôtres, elle n'a rien à craindre. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je voudrais vous encourager ce matin et vous dire que nous devrions chaque jour prendre soin, quelle que soit notre activité, quelle que soit aussi la multiplicité des travaux dans lesquels nous pouvons être engagés, parce que ça aussi, ça peut être un piège. Attention, être actif pour le Seigneur, c'est bien, mais sombrer dans une activité excessive, ça c'est mal. Il faut toujours un équilibre, et c'est dans cet équilibre-là que nous pouvons entendre la voix du Seigneur nous parler. Pour quelle raison, si souvent, nous tombons dans les pièges du malin, soit par notre langage, soit par un certain comportement, soit parce que la tentation s'est présentée en nous et que n'y étant pas prêt, nous avons succombé. Et je ne suis pas ici en train de lutter ou de condamner qui que ce soit, parce que je me rappelle de ce merveilleux cantique que nous chantions autrefois. Qui me relève dans mes chutes? C'est Christ qui peut le faire. Nous ne sommes pas à l'abri de chutes, mais il a le pouvoir de nous secourir. Mais pour ne pas tomber, nous devons être attentifs à ce que Dieu nous dit. Et mes frères et sœurs, la raison pour laquelle il y en a tellement, tellement, qui des fois sombrent dans le découragement, sont pris de panique en face d'une certaine situation sur le plan personnel, sur le plan familial ou sur le plan collectif, peut-être au niveau de la communauté spirituelle à laquelle nous appartenons, ou alors peut-être au niveau de tout ce qui se passe dans le monde. Pourquoi il y a le découragement? Parce que il a manqué cette relation étroite, authentique avec le Seigneur, au travers de laquelle il nous parle et nous prépare à affronter tout ce que le malin veut mettre sur notre route. Vous avez certainement fait plus d'une fois l'expérience de vous tenir devant le Seigneur, non pas comme un exercice de piété routinier. Vous savez, lire la parole de Dieu comme cela, parce que c'est un devoir qu'il faut accomplir. Et prier juste quelques mots, je dirais presque toujours les mêmes, parce qu'il faut le faire, et que nous disons, nous sommes chrétiens, il faut quand même que nous fassions ces choses-là. Ça n'apporte pas ce dont nous avons besoin. Mes frères et sœurs, il faut que nous retrouvions le fait de chercher le Seigneur avec un cœur sincère, avec un cœur véritable, avec un cœur authentique. Il y a trop de distractions, il y a trop d'appels de ce monde, il y a trop de choses qui détournent nos regards de la personne du Seigneur. Et à ce point même qu'un certain auteur a écrit un livre, et dans ce livre il a mis un titre, et le titre est celui-ci, « Trop occupé pour ne pas prier ». Vous voyez la différence ? Ça veut dire que nos activités, nous devons être en mesure de pouvoir les canaliser et surtout ne jamais permettre que le temps que nous devons réserver au Seigneur quotidiennement soit comme mis de côté, parce que ça c'est la ruse que le diable utilise afin que nous tombions dans les pièges qu'il a tendu pour chacun d'entre nous. Alors, si vous le voulez, livrez-vous aussi à cette expérience-là et cherchez dans la parole de Dieu le nombre de fois où il est dit « Garde-toi, gardez-vous ». Je voudrais vous citer quelques-uns des exemples. Gardez-vous des faux prophètes. Ils n'en manquent pas à l'heure actuelle. Des hommes qui sont capables d'avoir l'apparence d'hommes de Dieu réels. Et quand ils parlent aussi avec une certaine autorité. Mais malheureusement, tout ce qu'ils disent n'a pas forcément de fondement sur la parole du Seigneur. Et vous savez aussi bien que moi que nous sommes avertis par l'Écriture qui nous dit que certains sont capables de se déguiser en anges de lumière pour mieux séduire. Mais quand nous avons la nourriture de la parole de Dieu, l'instruction que la parole de Dieu nous apporte, le discernement qu'elle est capable de nous donner, alors nous pouvons rejeter cela et nous trouver plus que vainqueurs. Jésus dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Ça veut dire quoi cela ? Ça veut dire que nous devons nous garder de cette sorte d'hypocrisie religieuse. Vous savez, mes chers frères et sœurs, c'est facile de tomber dans une sorte de religiosité où l'on adopte un certain costume que nous mettons le dimanche ou à l'heure de la réunion et nous pouvons avoir une certaine apparence. Vous savez, vous connaissez l'expression aussi bien que moi, « Ah, un tel, on lui donnerait le bon Dieu sans confession ». Mais voyez-vous, Dieu connaît le cœur. Et Dieu sait où nous en sommes les uns et les autres. Il te connaît, toi, époux, qui est ici à une bonne figure, un bon visage, et qui est capable aussi de montrer une certaine apparence. Mais il sait les problèmes que tu rencontres dans ton foyer, les difficultés que tu as, peut-être avec ton épouse. Il te voit, toi, ma sœur, qui a ici un visage d'ange, mais qui est si terrible à la maison, quand il y a des moments où qu'il y a une sorte de réaction qui te gêne et tu deviens alors incontrôlable. Tout cela, le Seigneur le voit. Mais écoutez bien, mes frères et sœurs, est-ce que nous allons nous laisser envahir par ce levain d'hypocrisie des pharisiens en nous revêtant du manteau de la religiosité, en ne permettant pas au Seigneur de mettre en nous le reflet de sa gloire par la puissance et le secours du Saint-Esprit? Regardez ce qu'il dit dans la parole de Dieu. Il faut également nous mettre à l'abri de tout ce qui vient de la part de l'ennemi de notre âme. Par exemple, dans le psaume 18, verset 24, « Je me tiens en garde contre mon iniquité ». C'est particulier cette expression-là. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira que nous devons faire attention au péché qui nous enveloppe si facilement. Je ne pourrai pas, du haut de cette estrade, désigner avec précision certaines choses que toi, mon frère, que toi, ma sœur, tu connais dans ta vie. Les choses que personne d'autre ne connaît. Le pasteur ne le sait pas. Ton époux ne connaît pas. L'épouse ne connaît pas. Tes enfants ne savent pas. Mais Dieu sait. Tu sais, ce sont ces choses qui sont secrètes. Et j'ai entendu parfois des chrétiens me parler en ces termes et dire « Ça, pasteur, c'est mon jardin secret. Je peux le comprendre. Et je ne vais pas, moi, en tant que pasteur, rentrer dans ton jardin secret. Mais je t'en supplie, mon frère, je t'en supplie, ma sœur, laisse le Saint-Esprit rentrer dans le jardin secret. Moi, je vais te faire du mal, mais lui, il ne te blessera pas. Mais dis-lui ce qui ne va pas dans ta vie. Tu sais, cette chose que tu caches aux autres, mais qui te gêne quotidiennement, qui te met mal à l'aise, même à l'heure de la réunion. Parce que quand tu es là, en présence des autres, au moment d'ouvrir la bouche, tu as comme le sentiment d'être un hypocrite devant la face de Dieu. Et ta louange est freinée. Ton expression de reconnaissance ne sort pas de ta bouche. Parce que tu te sens gêné, étroitement gêné, à l'étroit dans ton cœur. Dieu voudrait te libérer. Garde-toi de ces choses-là dans le secret de ta chambre. Parle à Dieu. Ouvre-toi. Dis-lui ces choses-là. Et quand tu viendras alors à ce moment-là, à l'heure de la réunion, il y aura la victoire. Il y aura le triomphe. Et tu pourras goûter à ce que le Seigneur est capable de communiquer. Alors regardez, quand justement le prophète Élisée a parlé en ces termes, eh bien, tout le monde obéissait, et le roi même d'Israël, qui pourtant n'était pas un roi selon le cœur de Dieu. Écoutez bien, le roi de Syrie est un insensé. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans les chapitres précédents, et notamment au chapitre 5, eh bien, le roi de Syrie a pu voir le Dieu d'Israël accomplir un miracle formidable. Vous connaissez bien l'histoire de Naaman. Et Naaman a été guéri miraculeusement. Le roi de Syrie aurait dû comprendre qu'on ne s'apprend pas au peuple de Dieu, un peuple qui appartient à un Dieu si grand et si puissant. Mais dans sa folie, il a continué à mener la guerre. Vous savez, il sera difficile de convaincre le monde dont le prince de ce monde est Satan. Et Satan, eh bien, fera la guerre au peuple de Dieu jusqu'à la fin. Cependant, le roi d'Israël, il n'est pas meilleur dans un certain sens. Parce que nous savons que cet homme-là, eh bien, il a été désobéissant à Dieu, qu'il a placé sa confiance dans des éléments humains. Il ne regardait pas non plus à Dieu. Lui aussi avait pu constater que le Dieu qu'il, son peuple servait était un grand Dieu. D'ailleurs, il avait beaucoup de mal à comprendre cela, puisque quand Naaman est venu vers lui, eh bien, il s'est mis en colère et il a dit, mais vous comprenez bien que le roi de Syrie est en train de me chercher querelle au travers de cela. Il comprenait rien au dessein de l'Éternel. Au lieu d'être un témoin et de manifester la gloire de Dieu, eh bien, il a été stupide. Alors, pourquoi est-ce que Dieu vient à son secours? Je vais vous dire, parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu de miséricorde. Et il use de patience. Il use de bonté. Et dans sa grâce, dans sa miséricorde, il va encore une fois prouver à ce roi insensé combien lui, il est grand. Et évidemment, averti par le prophète Élisée, alors il envoie des personnes pour se rendre compte si ce qu'avait dit le prophète Élisée était vrai. Et il pouvait constater que la parole prononcée par le prophète était vraie. Mais le chef de l'armée de Syrie et le roi de Syrie lui-même, Eh bien, on dit, mais il y a quelqu'un qui parmi nous est un traître. Comment ça se fait que tous nos plans, toute notre stratégie est dévoilée? Qu'est-ce qui se passe? Et même le roi a dit, voulez-vous me dire qui est contre moi? Voulez-vous me dire qui est pour le roi d'Israël? Heureusement qu'il y avait un homme peut-être plus intelligent, plus sage, parmi ceux en qui il avait confiance, qui lui a dit, mais c'est pas ça, ô roi. Mais il y a en Israël un prophète qui sait tout ce que tu dis dans ta chambre à coucher. Et nous, nous connaissons le verset de la parole de Dieu qui se trouve dans un psaume où il est dit que notre parole n'est pas encore dans la bouche, que Dieu sait tout ce que nous allons prononcer. Rien ne lui échappe. Vous vous rendez compte, le Dieu que nous avons? Et là, alors il a dit, bien, c'est comme ça. Et le roi de Syrie a dit, bien, il faut envoyer là quelqu'un pour prendre Élisée. Où est-il? Il est à Dothan. Je voudrais juste souligner quelque chose en passant. Il est à Dothan. Tout le monde le savait. Le prophète n'avait pas besoin de se cacher. Quand on marche avec le Seigneur, on est dans la lumière. On n'a pas besoin de trembler. On n'a pas besoin d'avoir de crainte. La lumière dissipe toujours les ténèbres. Il est à Dothan. À Dothan, ce n'est pas un lieu tellement recommandable. Dothan, ça signifie « des puits ». Si c'est le puits où jaillit l'eau vive, alors c'est formidable. Mais à Dothan, il y a eu une période où l'eau n'était plus. Et on a jeté quelqu'un dans un de ces puits. Vous vous souvenez de cette histoire? Il s'agit de Joseph. Et Joseph a été là. Heureusement, il n'y avait pas d'eau cette fois. Et il a pu sortir de cet endroit. Le prophète se trouve à Dothan. Lui, il ne se cache pas. Et puis, curieusement, il dit qu'on envoya vers lui des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit. Les serviteurs de Dieu véritables sont dans la lumière. Les ennemis de l'Église, les ennemis du peuple de Dieu sont dans les ténèbres. Nous devons marcher dans la lumière. Les autres peuvent marcher dans les ténèbres. Regardez comme c'est surprenant. Des chars, une forte troupe, des chevaux, tout ça pour prendre un seul homme. Ça ne vous fait pas penser à ce qui est dit dans l'Évangile, quand précisément on a envoyé vers le Seigneur une foule armée pour prendre Jésus qui était dans le jardin de Gethsémané. Jésus seul. Et voyez-vous, quand on est dans la lumière, on n'a rien à craindre. Vous vous souvenez? Quand Jésus seul, accompagné de ses disciples, mais Jésus là, seul, dans le jardin de Gethsémané, voit cette troupe arriver. Ils ne le reconnaissent pas. Et il dit, mais qui cherchez-vous? Et quand ils disent, Jésus de Nazareth, il suffit au Seigneur de dire, c'est moi, pour que toute cette troupe tombe par terre. Vous voyez, la puissance de Dieu. Jésus, par là même, a montré quelque chose qui est vraiment formidable. Non, personne n'a pris la vie de Jésus. Il l'a donné volontairement de lui-même parce qu'il nous aimait. Et nous ne devons pas oublier cela. Il a le pouvoir d'anéantir. Il ne le fait pas parce qu'il nous aime. Souvenez-vous quand la deuxième fois il a dit, si c'est moi que vous cherchez, alors laissez aller ceci. Mes frères et sœurs, nous faisons partie de ceux à qui le Seigneur a fait la grâce de nous laisser aller libres. Nous sommes libres par la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Nous sommes revêtus de sa justice. L'ennemi attaque. Mais écoute bien, même si tu te sens condamné par le diable, maintenant même, je voudrais te dire une chose. N'oublie pas ce qui s'est passé dans le livre du prophète Zacharie, quand le souverain sacrificateur Josué se trouve accusé par Satan lui-même et que Satan dit à l'Éternel, « Regarde ton serviteur, il est sale !» Il est sale, il est revêtu d'habits sales. Et en faisant cela, que faisait Satan? Il remettait en cause, eh bien, l'autorité de la loi de Moïse. Et il mettait en relief, tu vois, cette loi le condamne, lui. Il est sale. Mais quelqu'un s'est levé. Et vous savez qui c'est, n'est-ce pas? L'ange de l'Éternel, notre Sauveur. Il s'est levé et il a dit que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, parce que celui-ci est aussi un tison arraché du feu. Alléluia. Le Seigneur est le seul qui puisse nous justifier parfaitement. C'est la raison pour laquelle, même quand toute l'armée ennemie se déploie pour nous acculer, pour nous mettre en difficulté, sachons que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Le dernier mot, c'est à Dieu seul qui lui appartient. Et voilà ce qui s'est passé quand même, c'est que lui était tranquille, il était dans la lumière, il était en paix, mais son serviteur, le matin, quand il s'est réveillé de bonne heure. Il a vu tout autour de la maison d'Élysée ces chars de fer de l'ennemi. Et vous voyez, quand on ne voit pas clair dans la foi, quand on n'a pas le discernement, alors on peut être effrayé. Et c'est ce qui est arrivé. Et il a dit, « Oh, mon Seigneur, que ferons-nous ?» Je dois avouer, plus d'une fois, je me suis aussi dit, « Que puis-je faire maintenant? Que pouvons-nous faire? Il semble que la situation est inextricable. Il semble que nous sommes dans des conditions qui ne peuvent pas être changées. Humainement parlant, c'est impossible. Alors je veux crier ce matin. Oui, c'est vrai. Et il y a des moments où c'est impossible aux hommes. Mais quand c'est impossible aux hommes, tout est possible à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Élisée? Il a dit, « Ouvre les yeux de mon serviteur !» Et les yeux se sont ouverts. Vous savez, les yeux du serviteur ne le trompaient pas. Ce qu'il voyait était réel. Il ne s'agit pas de nier certaines évidences. Il ne s'agit pas d'être dans le déni. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Et parfois, elles sont très brutales, très douloureuses. Elles sont là d'une évidence réelle devant nos yeux. Mais quand il y a les yeux du cœur, les yeux de la foi qui sont ouverts, alors on dit, oui, ça c'est vrai. Mais au-delà de ça, il y a le bras de l'Éternel. Et quand on s'appuie sur le bras de l'Éternel, le bras de l'Éternel, eh bien, il vient à notre secours. Quand nous disons le bras de l'Éternel, nous le faisons avec une certaine légèreté. Mais dites-moi, mes frères et sœurs, c'est quand même le bras de l'Éternel qui a mis en place cet univers dans lequel nous sommes. C'est le bras de l'Éternel qui a mis en place toutes ces étoiles dans le ciel. Et la Bible dit que toutes ces étoiles, semblables à une armée, obéissent au grand général, notre Dieu. C'est le bras de l'Éternel qui a fendu la mer Rouge pour le peuple. C'est le bras de l'Éternel qui a divisé les eaux du Jourdain. C'est le bras de l'Éternel qui a nourri le peuple de Dieu pendant 40 ans dans le désert. C'est le bras de l'Éternel qui a fait que même pendant ces 40 années, Eh bien, ce peuple n'a pas vu ses vêtements s'user, ni même ses souliers. Mais quel miracle extraordinaire! Si je crois à cela, et que je crois que Dieu ne change pas, alors le bras de l'Éternel, je vais l'invoquer pour qu'il se manifeste au milieu de nous, pour qu'il accomplisse ses miracles, qu'il vienne réconforter, qu'il vienne fortifier, qu'il vienne guérir, qu'il vienne délivrer. Mes frères et sœurs, ça, c'est une glorieuse réalité. Mais écoutez bien, pas seulement en faisant des choses qui nous permettent de voir l'obstacle être enlevé, parce que parfois Dieu n'enlève pas l'obstacle, mais il nous donne la force de le traverser, de résister. Les héros de la foi, ce sont ceux qui ont réalisé des exploits, mais les héros de la foi, ce sont ceux aussi qui ont connu des moments extrêmement difficiles, persécutés, méprisés, rejetés, mais aux yeux de Dieu, ils sont les héros de la foi. La raison pour laquelle, oui, mes frères et sœurs, le miracle de Dieu, il s'accomplit quand il enlève la montagne, qu'il la déplace, qu'il dit à un arbre, va-t'en et va te planter ailleurs. Mais cette même foi, elle est capable aussi de nous donner un repos, un calme, une sérénité, une paix parfaite, même dans les moments les plus difficiles. Et je dois vous dire que le témoignage de la foi est aussi valable dans le miracle que dans cette paix et ce repos que nous avons chanté et qui doit être le partage de tous ceux qui se confient dans le Seigneur. Là, Dieu a parlé par la bouche d'Élisée à son serviteur qui lui a dit « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre qui sont avec eux. » Deuxième expérience que je vous demande de faire. Cherchez le nombre de fois où il dit « Gardez-vous », mais cherchez le nombre de fois. Dans toute l'Écriture, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, où Dieu dit à son peuple et à ses enfants « Ne crains pas ». Nous l'avons entendu au travers d'un don ce matin, combien il est capable de communiquer la paix, même quand on est justement face à quelque chose qui est particulièrement difficile. Ne crains pas, c'est ce que le Seigneur est en train de nous dire à chacun d'entre nous ici ce matin. Nous n'avons rien à craindre si nous sommes dans la main du Seigneur. Ne crains pas. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Élisée, avec ce calme, cette sérénité, cette confiance totale à Dieu, continue à donner des ordres. J'ai juste fait une comparaison. Élie, qui est son prédécesseur et que j'appelle à titre personnel le prophète du jugement, lui, il prie et le ciel s'ouvre et il y a la pluie. Il prie, le ciel se ferme et devient un ciel d'airain. Élisée, c'est le prophète de la grâce. Eh bien, il a reçu le manteau, souvenez-vous, qui est tombé et revêtu de la même puissance. Il ne demande pas les mêmes choses. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait pareil. Mais il dit, ferme les yeux, et les yeux se ferment. Il dit, ouvre les yeux, et les yeux s'ouvrent. Vous voyez, mes frères et sœurs, ceci me fait penser à une chose. Dans un moment, nous allons passer du temps dans la prière, dans le jeûne et la prière, la méditation de la parole de Dieu aussi. Mais je voudrais vous dire, là, il y a quelque chose que Dieu veut nous communiquer pour que nous ayons aussi cette sorte d'autorité-là. Parce que nous pouvons prier, par exemple, pour la conversion de quelqu'un. Mais je vais vous dire, les paroles les plus merveilleuses que nous pourrons prononcer, je dirais même la prédication la plus extraordinaire qui serait donnée ou délivrée avec le plus grand enthousiasme et le zèle le plus réel, ne pourra jamais convaincre comme le Saint-Esprit est capable de le faire. Et si le Saint-Esprit n'ouvre pas les yeux de quelqu'un Eh bien, rien de ce que nous pourrons accomplir n'aura un véritable succès. Est-ce que nous comprenons cela? Nous avons besoin de demander au Seigneur qu'il convainque le monde de péché, de justice et de jugement. Je suis en plus atterré de voir, ou plutôt d'entendre, certains témoignages où on parle du Seigneur, où l'on parle de sa gloire, où l'on parle de certaines choses. Mais quand on gâte un peu à cause de ce qu'on entend et que l'on essaie de découvrir quelle est la base de la foi de cette personne qui est en train de rendre témoignage, on découvre, ah mais Dieu, il a fait pour moi de grandes choses, il a accompli tel miracle, il a accompli telle chose, j'étais malade, il m'a guéri, j'étais dans le besoin, et puis il a pourvu à mes besoins. Mais ça, Dieu le fait même pour les inconvertis, parce qu'il fait lever le soleil sur les justes comme sur les injustes, et il fait de bonnes choses pour les chrétiens comme pour les gens du monde. Vous ne croyez pas que dans le monde, il y a des gens qui sont bénis de Dieu et qui ont ce que quelques chrétiens ne possèdent pas? Ce n'est pas la bénédiction qui est importante, et ce n'est pas ça qui doit nous attirer à lui. Qu'est-ce que c'est qui nous attire à lui? C'est le prix qu'il a payé sur la croix. Et si quelqu'un n'a pas la révélation de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ, eh bien je me demande comment cette personne peut être une véritable ou un véritable et authentique chrétien, disciple du Seigneur. Il faut que les yeux s'ouvrent pour voir ce qui est le plus important. Et d'ailleurs, je reviens toujours à la même chose, et c'est par là que je terminerai. En découvrant cela, eh bien, on se voit vraiment misérable. En fait, vous savez, c'est ce qu'Élisée a fait pour tous ces gens à qui, pour lesquels il a demandé à Dieu de fermer les yeux d'abord. Et puis, quand il a dit qu'il ouvre les yeux, eh bien, ils ont vu dans quelle misère ils étaient. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient là au milieu de Samarie. Ils se sont rendus compte de l'état dans lequel ils étaient. Ils n'avaient plus qu'un seul secours. C'est d'avoir recours à la grâce et à la miséricorde, ce qui leur a été accordé. Le roi, qui n'a jamais rien compris, il a dit au prophète, « T'as vu là? Maintenant ils sont à ma disposition. Tu me les amenais ici. Est-ce que je frappe maintenant ?» Il était toujours prêt à lever l'épée. « Je vais les tuer, je vais régler le compte, je vais maintenant en terminer avec eux. » Et Élisée dit quoi? « Est-ce que tu agis comme cela, avec ce que tu fais prisonnier ?» Et il dit non, donne-leur à manger, donne-leur à boire. C'est pas la grâce, ça? C'est pas la miséricorde? Vous savez, mes frères et sœurs, c'est ça que nous devons offrir au monde. La grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la faiblesse. Dans les moments qui suivent, j'aurai peut-être l'occasion de revenir un peu sur ça. Écoutez bien, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je suis opposé à la grâce de Dieu qui est changée en dissolution. La grâce de Dieu dont certains ont la notion qui leur permet de vivre n'importe comment n'est pas la véritable grâce de Dieu. Quand on est conscient de ce que Dieu a fait, alors on s'éloigne du mal. Parce qu'on est régénéré par la puissance du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu en nous nous mène dans une direction opposée à celle de la chair et de ce monde. Mais quand même, je veux souligner, il n'y a rien de plus grand, de plus merveilleux que la grâce de Dieu, parce que c'est elle qui nous donne la force quand nous avons la révélation de ce que le Seigneur est et de ce qu'il fait, de marcher en vainqueur sur tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Quelle merveilleuse délivrance! Et le roi d'Israël leur a offert à boire, à manger. Ils sont repartis, c'est ce que je dis, et les Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. C'est une drôle de guerre, vous ne trouvez pas? Ça commence par la guerre, ça se termine par un repas convivial. Ça veut dire que Dieu a le pouvoir de changer toutes les choses pour notre bien. Que Dieu nous aide à comprendre. Que Dieu vous bénisse.